Salut, salut, bienvenue à Sur la ligne, le radio-podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale, Alex Rimbaud dans votre compagnie. Il commence à se faire tard dans cette saison de tennis et au moment d'enregistrer l'émission, ben, il y a un peu de neige au sol déjà. Là, j'imagine que les terrains de tennis Montréal vont commencer à être de moins en moins occupés.
Je ne sais pas si l'arrivée de la neige motive les joueurs et joueuses canadiennes, là, mais il semble qu'on a des bonnes fins de saison. On en parlait un peu la semaine dernière, mais oui, la fin de saison approche, mais du gros tennis encore qui se joue cette semaine à Paris. Et oui, de la neige au Parc Jarry ce matin. Je vais faire une photo du court central un peu plus tôt parce que le filet est toujours là sur le central, mais je pense qu'il nous reste plus beaucoup de jours avant que ça soit la fin. Là. Mais on a encore des gens qui en profitent. Les terrains sont encore en location au stade IGA jusqu'à temps que ce soit vraiment plus jouable. Donc, si jamais il fait plus beau cette semaine, on peut encore en profiter encore.
Mais sinon, on pourra jouer à l'intérieur comme les joueurs le font présentement. Hugues, ben, d'abord, sur un point de vue personnel, comment te portes-tu, mon cher ami?
Bien. Écoute, week-end d'automne, là, j'ai heureusement finalisé mon ramassage de branches sur le terrain et fait brûler tout ça avant que la neige arrive, là, mais ça a été un bon petit week-end tranquille avec de la bonne bouffe, là, à regarder du bon tennis et je dois dire que j'ai été heureux et soulagé, comme un certain Félix Auger-Aliassime, de voir la conclusion du tournoi de balle hier.
Oui, ben écoute, ça ne peut pas être des plus bonnes nouvelles que ça. Là. On s'en reparlera pour plus en détail là, dans quelques minutes. Mais avant qu'on saute dans le feu de l'action, Hugues, je veux faire un petit message sur le décès de Matthew Perry qui jouait dans Friends. Je ne sais pas si tu as vu ça passer. Oui. Moi, je ne le savais pas. Bon, je savais qui était Matthew Perry. Je savais qu'il avait joué dans Friends. Mais ce que je ne savais pas, et ce qu'on a appris cette semaine, c'est qu'il était déjà classé très haut chez les juniors canadiens à une certaine époque. Il a été top 20 en simple et top 10 en double chez les juniors canadiens. Oui. Un excellent joueur de tennis. Et puis, on l'a déjà vu avec des photos avec des joueurs de tennis. Gabriela Sabatini, là, pour ceux qui ont une bonne mémoire, d'ailleurs, qui a déjà fait tourner des têtes ici à Montréal, là, Gabriela Sabatini.
Alors, voilà un petit... C'est un visiteur régulier au US Open, Matthew Perry, tu le dis, d'une maman canadienne, donc il est 50% canadien, il a grandi ici, il est très très bien classé, comme tu l'as dit, dans les juniors ici, mais finalement ça ne s'est pas concrétisé du côté américain quand il est déménagé, et c'est là que sa carrière artistique a pris son envol à ce moment-là, là, quand il a vu qu'il ferait pas une carrière de tennis, mais toujours dans l'environnement du tennis au fil des années. On le voyait souvent au Family Week du US Open. Là, donc, mais c'est vraiment triste, là, à 54 ans, qui semble près de tout le monde. C'est un de nos amis à travers Friends, hein, comme tout le monde, et je pense qu'il a touché beaucoup de gens, Matthew Perry.
Ben écoute, c'est pas, je dirais pas né une vie de moine non plus, là, ça a sûrement joué dans les... Ah, tout ce qui s'est passé, enfin, on verra, là,
il y a eu des enjeux, là, au fil des années d'alcool, de consommation de drogue aussi.
Mais un petit clin d'œil quand même qu'on se permet à sur la ligne parce que, ben, écoute, il est un joueur de tennis beaucoup mieux classé que toi et moi, et déjà, ben ça, c'est digne de mention également. Bon, sautons dans le vif de l'action, parlons de tennis puisque c'est notre mandat, et là... J'avais hâte de vous parler cette semaine parce que Félix is back. Et là, qu'on dise ce qu'on veuille, il aura terminé la saison en beauté. Avant qu'on fasse un peu un bilan du tournoi et toute sa signification, je veux qu'on rentre dans la finale comme telle, bon, ou même dans son tournoi comme tel. Là, ton évaluation de son tournoi, c'est quoi?
Je vous l'ai écrit ce week-end, plein de bonnes choses. Et je vais aller dans le détail, évidemment. Puis je l'avais dit il y a une semaine, pour moi, ces deux victoires, la semaine dernière, étaient plus ou moins significatives. Je disais, c'est Bâle et Paris qui vont évidemment faire foi de son état réel du jeu, où il en est rendu, parce qu'il a beaucoup de points à défendre, évidemment. Il y avait 500 points à défendre à Bâle, près de 600 aussi à défendre cette semaine à Paris, où il a fait la demi-finale en 2022, où il s'est incliné contre un certain Holger Rune, qui l'a battu à Bâle la semaine dernière. Mais c'est un tournoi où j'ai il a fait tout ce que je souhaitais qu'il était pour faire. C'est-à-dire, on a revu un Félix qui dicte les points, qui mène dans l'échange, qui prend des chances et qui réussit. Il a retrouvé, écoutez, sa superbe en première balle, c'est-à-dire 93% de points gagnés en première balle durant la finale. C'est quand même exceptionnel, avec un pourcentage de première balle de 68% de première qui passe. Quand Félix joue comme ça, il est très dur à battre. Et la force mentale dont il a fait preuve, et contre Shevchenko en quart de finale vendredi, où il y a eu une balle de match contre lui. Et là, il a monté une certaine maturité parce qu'il est resté calme, il avait des crampes en plus, donc beaucoup de courage dans son quart de finale contre Shevchenko, qui fait une erreur non provoquée sur balle de match. Et Félix, qui finalement se sauve avec le tie-break. Là, j'ai dit, ah, ça, il a montré beaucoup, beaucoup de caractère là, dans ce match-là. Victoire nette contre Alger Rooney, 6-3, 6-2 en demi-finale. Et Hubert Hurkacz, qui est tout un client, un gars qui est presque impossible à breaker. Donc, match qui se termine 7-6, 7-6, deux tie-breaks.
Il a gagné la finale, mais il ne l'a pas brisé une fois.
Exactement. Donc, c'était un match où il fallait beaucoup de force de caractère. Mais ce que j'ai aimé, Alex, je le répète, c'est le fait qu'il menait dans l'échange. C'est lui qui était le patron sur le terrain. Il provoquait des choses, il y avait de la réussite, il montait au filet, les amortis, une belle construction des points. C'est ce qu'on attendait toute l'année et tout d'un coup, il l'a fait. Pour moi, c'était un grand bonheur de le voir jouer comme ça. Puis comme je disais en ouverture, j'étais un peu soulagé comme lui quand il a soulevé le trophée. J'étais tellement content pour Félix, là, après tout ce qu'il a traversé cette saison. C'est vraiment le fun.
Ben écoute, on va continuer d'en jaser encore un bon petit bout, si tu veux. Mais parlant de ce qu'il a fait et sa célébration après, et tu dis, bon, il a soulevé le trophée, je te propose qu'on écoute quelques clips de Félix parce que je trouve que c'était significatif, non seulement sur sa saison, mais également sur le tournoi. Et ben, je vous propose ce qu'il avait à dire à Tennis TV après la confrontation.
Félix, a couple of days ago, I asked you if you were back. You modestly said you weren't sure. If I asked you that question right now, what would you say?
I'm definitely back. I mean, I let my racket talk, you know. That's always been the motto of my career. I've had the conviction that I can be a top player since I'm a kid, but, you know, there was many doubts this year about my performances and why, and I'm happy that I was able to prove to everybody, you know, that I still belong among the best players in the world, that I can play at this level. So I never doubted, but it's good to confirm it on the court.
Your fifth ATP Tour title, your first in a year since you won this last year. It's been a rough year because of your knee injury. Just give us some sense of what you've been through in the last 12 months.
Yeah, a lot of tough times. It was a new challenge this year, being away from the court, trying to manage to play tournaments through injuries with painkillers and sort of things like this, and still today actually. So I mean, it's been a tricky year overall, but this feels extra special, even more than last year. This is I think with the first title, you know, the sweetest for sure, so I'm gonna enjoy this one.
Absolutely, well done today.
Elle est intéressante, cette entrevue-là. D'abord, si vous l'avez entendue à la radio, je vais traduire et je vais vous dire d'abord et avant tout qu'il avait un énorme sourire après cette victoire-là et tout le long de l'entrevue. Et pour cause, là, bon, évidemment, quand tu viens de gagner un tournoi, parce qu'il y avait du soulagement là-dedans. Mais il disait, bon, il s'est fait poser la question qu'est-ce que ça fait de gagner ce tournoi-là malgré une saison difficile. Il a dit, c'est vrai que ça a été une saison particulièrement difficile. J'ai dû gérer la douleur avec des blessures tout au long de la saison, tout en jouant assez régulièrement. Alors, ce qu'il confirme ici, là, c'est ce qu'on a dit une bonne partie de la saison. Est-ce qu'il y a des blessures? Il dit, ah, je me sens bien, mais il vient de le confirmer. Il a joué en douleur toute la saison. Il a même dit qu'il a dû prendre des antidouleurs là, pour pouvoir gérer la douleur. Il dit, là, oui, je me sens bien, oui, je suis de retour, mais même encore aujourd'hui, je sentais encore des douleurs. Alors, écoute, ça, c'est quand même assez significatif. Et là, évidemment, on sentait qu'il y avait un point enlevé énormément sur ses épaules à Félix, comme je le disais. Il était tout sourire. Et puis, ben, quand on lui a demandé, est-ce que tu es bel et bien de retour? Il a dit, ben, sans hésiter, oui, je suis bel et bien de retour. Tu sais, j'ai jamais douté que j'étais capable de jouer à ce niveau-là. J'ai jamais douté que je pouvais faire partie des meilleurs au monde. Et je pense que nous non plus, c'est juste que les résultats n'ont pas nécessairement été là cette saison, mis à part cette semaine. Alors, écoute, je pense que c'est un Félix Auger-Aliassime C'est bizarre, hein? Parce que nos exigences sont tellement rendues élevées, soulagées parce qu'il a remporté un tournoi. Alors que la plupart des joueurs en remporteront même pas un dans leur carrière.
Ouais, mais c'est dans la logique de sa saison 2023. Moi, j'aurais pas non plus parié sur une victoire à Bâle il y a une semaine. Oubliez pas qu'il a pris un late wild card. Hein. Il a hésité à faire le tournoi. Il était même pas certain. Les organisateurs, évidemment, comme champion en titre, lui ont laissé prendre un wild card. Mais ça a été une décision de dernière minute pour lui. Puis il a quand même sauvé une balle de match contre Savchenko. Donc, tu sais, ça n'a pas été une promenade dans le parc, ce tournoi-là. Mais ce que j'ai aimé, justement, c'est qu'il reste calme dans un match compliqué contre Savchenko, qui venait de battre Taylor Fritz en passant. Donc, il était sur une très bonne semaine, Savchenko. C'est un breakthrough. C'est une semaine importante pour lui, là, Savchenko. Et après, Olga Rune, bon, qui commence avec son nouveau coach, Boris Becker, qui n'est peut-être pas à son meilleur encore en ce moment. Mais 6-3, 6-2, c'est une victoire nette quand même. C'était, encore une fois, Félix le patron sur le terrain. Puis, bon, écoutez, les gars, c'est la première fois qu'il alignait autant de victoires de suite depuis le mois de mars. Donc, oublions pas ça. Là. Il y a eu une fois deux victoires la semaine dernière. Et avant ça, il fallait remonter en Australie pour qu'il y ait trois matchs gagnés de suite. Donc, qu'il se rende jusqu'au but d'un tournoi, c'était pas évident quand même. Et donc, et on dit tout le temps, les grands champions trouvent la manière de gagner dans des moments plus difficiles. Et c'est ce que Félix a réussi à faire, je crois, à Bâle la semaine dernière.
Tu l'as dit, Shevchenko était un peu une révélation dans ce tournoi-là. Quel tournoi il a reconnu? D'ailleurs, il a passé par les qualifications avant d'atteindre les quarts de finale et ça s'est joué à peu de choses pour qu'il passe au moins un autre tour. Il a battu Wawrinka, Fabio Fognini et Taylor Fritz dans ce tournoi-là. Écoute, je te pose la question comme ça. Est-ce que Shevchenko a sauvé le titre à Félix? Parce que s'il affronte Fritz, là tu vas me dire, ouais, mais il vient de battre Rune et il a battu Hurkacz. Mais s'il affronte Fritz, est-ce que ça passe?
Écoute, ça, c'est des hypothèses, Alex, puis je n'irai pas là. Il a composé avec le tableau qu'il a eu, avec les joueurs qui sont passés dans le tournoi. Et semaine après semaine, on ne sait jamais ce qui va arriver. Oublions pas que Félix, contre Savchenko aussi, je le répète, fin du troisième set, a des crampes. Il était en douleur, il avait de la misère à marcher, il se tenait la cuisse, est-ce qu'il va se retirer? Donc, il y a tellement de conditions, il y a tellement de facteurs que tu ne contrôles pas. Est-ce qu'il aurait battu Fritz si Fritz avait battu Savchenko? On ne le saura jamais. Puis honnêtement, ce n'est pas important aujourd'hui. Il a composé de belle manière avec ce qui lui a été offert pour aller chercher ce titre. Et encore une fois, de battre Hubert Hurkacz sans le breaker, c'est pas évident. Des matchs qui se jouent sur 2-3 points là, pendant 2 heures, il faut être très fort. Donc, Félix a démontré de très, très belles choses, extrêmement positif cette semaine à Bâle.
Un Hubert Hurkacz qui semblait quand même visiblement amoindri, là, particulièrement aussi. Au deuxième set, il bougeait vraiment, vraiment pas bien. En fait, par bout, il ne bougeait tout simplement plus. Là. La fin du deuxième set, là. Une chance qu'il est grand et qu'il a une longue portée, parce que puis même par bout, je me demandais, crime, c'est presque dangereux que Félix ne soit pas capable de convertir ces bris-là, parce que balles de bris-là, parce que bon, il est visiblement amoindri.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu quelques balles à 0-40 ou 15-40. Là, je me dis, oh, attention quand tu as cette chance-là contre Hurkacz, mais bon, il s'en est sorti au tie-break. Bravo, j'ai que des bonnes choses à dire sur Félix, en tout cas, cette semaine.
Ben, absolument, absolument. On ne cassera pas du sucre, certainement pas, sur un gars qui vient de remporter un titre. Avant qu'on passe du côté de Vienne, moi, j'ai une question pour toi, puis cette question-là, elle reviendra peut-être dans le bilan de fin d'année, là, qui, mine de rien, ben, va approcher plus tôt que plus tard. Est-ce que ça change la perception sur sa saison, ce titre-là? Je veux dire, c'est un minimum de joueurs qui vont gagner des titres dans une saison.
Ouais.
Oui, il a eu une saison correcte sans plus en fonction de ses standards, disons-le comme ça. Mais Cibol, il va finir avec un titre pareil.
Je retiens quand même un élément où il faut rester vigilant. C'est son 5e titre et les 5 titres sont venus en intérieur. Ça, il faut quand même le souligner que le tennis se joue en extérieur 9 mois sur 12, là, si on prend le circuit ATP. Donc, j'ai hâte de voir des gros titres à l'extérieur pour Félix, parce qu'il aime bien des conditions contrôlées, on le voit. Ça aide son service, ça aide son jeu d'attaque. S'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de soleil, c'est moins compliqué. Donc, ça, c'est un point important. Est-ce que ça vient effacer sa saison compliquée? La réponse, c'est non. Là, en ce moment, il protège son classement et c'est très bien. Il est 19e ce matin. Il serait tombé en bas de 19e s'il n'avait pas gagné cette finale-là. Mais ça ça reste que ça, c'est une saison qui aurait été une saison difficile au point de vue physique, au niveau mental. Mais ce qu'on retient, par contre, c'est que là, et ce qui me rassure, c'est que son jeu, maintenant, me démontre qu'il peut être créatif comme un Alcaraz, comme un Rooney, comme les joueurs du plus haut niveau, comme un Sinner. C'est ça qui me faisait peur durant l'année. Mais là, je te rejoins peut-être sur le fait que, et je me suis peut-être trompé, peut-être que sa blessure l'a affecté sur ce qu'il osait faire sur le terrain, en fait. Parce que là, il a osé, drop shot, lob, angle, il dictait les points. Encore une fois, la construction de ses points était vraiment très belle à voir, exceptionnelle. Et ben là, il peut tout faire ça. Donc moi, ça me dit attention à Félix en 2024, parce que là, il vient de me donner de très gros espoirs là, sur ce qu'il peut réussir.
Il a encore beaucoup de points à défendre à Paris là, parce qu'il avait une demi-finale l'année passée là aussi. Là, Paris faisait aussi partie de, entre guillemets, son stretch qui avait été absolument incroyable. Si je ne me trompe pas, il avait perdu contre l'éventuel champion en titre, Rooney, en demi-finale. Alors, écoute, il y aura encore beaucoup de points à défendre. Moi, je pense que, en tout cas, sur le plan de la perception et des points au classement, ça vient sauver sa saison jusqu'à un certain point. C'est difficile de dire, c'est vraiment une saison à oublier quand tu as quand même un titre sur le circuit de l'ATP, là, à moins que tu sois un Rafael Nadal ou un Roger Federer dans son gros prime. Ça serait la seule façon de dire que c'est une saison à oublier.
Moi, je te dis, Alex, il doit être tellement soulagé. Ils ont dû fêter un peu hier soir et avec raison. Là.
Ben, ils se sont fait demander, d'ailleurs, j'ai vu une entrevue avec Fred Fontan, puis on lui demandait, est-ce que vous allez célébrer cette victoire-là? Et puis, tu sais, je pense qu'il disait, on célèbre tous les victoires parce qu'on ne sait jamais si ça va être la dernière. Tu sais jamais si tu vas en gagner un autre titre dans ta carrière. Alors, je pense que ça, c'est des sages paroles. Écoute, Hugues, je pense que vraiment, c'est une bonne nouvelle pour Félix. C'est une bonne nouvelle pour le Canada aussi en prévision de la Coupe Davis parce que là, on a tous les espoirs qui sont de retour en se disant le joueur numéro un est de retour. On se disait, parfait, on est quand même confiant avec l'équipe qu'on a, avec les Alexis, les Diallo qui ont connu une bonne saison, les Milos même, etc. Mais là, si Félix est revenu à ce niveau-là, j'ai hâte de voir si on va pouvoir peut-être même défendre notre titre à la Coupe Davis.
Oui, on a une équipe de premier plan avec de la profondeur, avec une variété de styles de jeu qui donne beaucoup d'options à Frank Dancevic, le capitaine et sélectionneur de l'équipe. Mais de voir Félix qui joue à ce niveau en ce moment, on peut aller à cette finale en Espagne de la Coupe Davis en pensant qu'on va défendre notre titre. En tout cas, on y va avec confiance. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette équipe. Ça promet.
On va faire un gros tour du monde là, cette semaine là, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'endroits où il s'est passé des trucs intéressants cette semaine. D'ailleurs, on va recevoir un peu plus tard Mylène qui va venir nous parler d'une destination tennis pour les femmes cette semaine. Mais en attendant, avant ça, je veux que tu me parles de Vienne où on a eu une finale de rêve, honnêtement. Là. C'est quand même assez spectaculaire ce qu'on a eu droit à Vienne avec Medvedev et Yannick Sinner en finale.
Ouais, il y a eu un petit peu de chevauchement entre la finale de Vienne et la finale de Bâle, 2 ATP 500. Quelle finale de très haut niveau entre Sinner et Medvedev. Troisième match le plus long de l'année pour des 2-3.
Il est bon, Sinner, là-dedans.
Donc, 3h04, superbe match. Sinner, qui pour moi, Ben Shelton sera probablement la révélation de l'année, Sinner, pour moi, c'est la progression de l'année en ce moment. Mm-hmm. Il est vraiment rendu à un niveau de maturité. Quatrième mondial, il va continuer de monter. Ça a été une finale champagne, comme je les appelle. C'était un match de très, très, très haut niveau contre deux joueurs au sommet de leur art. On s'est bien amusé avec cette finale-là aussi.
Ouais, les matchs étaient un peu plus tard. Là. Est-ce que c'était quand même mimosa et déjeuner chez les légers ou c'était un peu plus tard? Là, fait que c'était peut-être juste directement champagne.
Ouais, c'était plutôt beurre de peanut et banane hier.
Quand même, relax avec les pantoufles.
Exact.
Ben voilà, OK. Intéressant. Ben écoute, Sinner, c'est quand même incroyable ce qu'il a réussi à faire cette saison. Là, c'est un quatrième titre pour lui cette saison, après, évidemment, l'avoir remporté à Toronto chez nous, à Beijing, à Montpellier. Et là, il ajoute Vienne à son tableau de chasse. Il a quand même une finale à Rotterdam et Miami, des demi-finales à Indian Wells, Monte Carlo, ça c'est des Masters 1000, et Wimbledon. Il connaît une saison absolument phénoménale. Ouais. Et son tournoi cette semaine, Shelton, Sonego, Tiafoe, Rublev, Medvedev. Écoute, là, c'est que des bons joueurs, tour après tour après tour, et tu bats un des meilleurs, sinon le meilleur joueur sur dur, là, c'est peut-être si on exclut Novak Djokovic. Écoute, c'était un tournoi quand même phénoménal pour Sinner. Là. Il n'a pas volé ce tournoi.
Ah, ouais, gros, gros tableau, plusieurs grosses victoires, tu les as énumérées. C'est son 10e titre ATP cette année. C'est une année exceptionnelle pour Sinner, puis je pense qu'on va le voir dans le top pour un bon bout de temps. Il a pris de la force aussi, il est un peu moins, il a pris du muscle, là, je vais dire comme ça, au niveau de ses jambes, mais je pense que ça l'aide aussi. Donc, très belle progression là, de Yannick Sinner en ce moment, et c'était vraiment une belle finale. C'était le fun de voir aussi la camaraderie entre les deux joueurs à la fin du match, comment ils se sont aspergés de champagne l'un après l'autre. Là. C'était une belle fin pour le tournoi.
Et il n'a que 22 ans.
Oui.
Encore un jeune homme, cher Sinner, personne qui va tomber en bas de sa chaise si jamais il remporte un titre ATP, celui-là. Je pense qu'on a eu droit à du tennis bien intéressant cette semaine. As-tu suivi du coin de l'œil le WTA Elite, qui est l'espèce de tournoi, la consolation des finales de la WTA? Un tournoi qui, honnêtement, là, on va en parler tout à l'heure, là, déjà les finales de la WTA, c'est en manque de notoriété. Ce tournoi-là, j'ai eu de la misère à comprendre sa position dans le tournoi et surtout de la façon dont ils l'ont marketé.
Ben Alex, on va en parler des finales de la WTA et des sorties qui ont eu lieu là, depuis l'arrivée des joueuses à Cancun, notamment Ons Jabeur et Sabalenka, et leur insatisfaction du fait que le site n'était pas prêt à les accueillir 48 heures avant pour les pratiques. Mais non, c'est un bon exemple. Vous savez que j'en mange du tennis, je suis à peu près tout. Je n'ai pas suivi le tournoi élite de la WTA parce que c'était juste trop et il a été marketé d'une façon qui passait un peu sous le radar entre toi et moi. Donc non.
100% d'accord. 100% voilà. D'accord. Moi, honnêtement, là, j'ai vu ce tournoi-là popper dans l'horaire et j'ai fait « Ah oui, c'est vrai. »
Ouais.
Puis d'habitude, on le sait, là, le tennis, là, l'horaire du monde du tennis est assez régulière de façon générale. On sait à peu près où on s'en va année après année, là, à quelques changements après. Là, ça se ressemble étrangement. Et puis là, je me souvenais à peine qu'il y avait ce tournoi-là qui avait été intégré à l'horaire. Pour ceux qui s'intéressent, là, c'est Béatrice Haddad-Maia qui l'a emporté, ce tournoi-là. Elle l'a gagné contre Quinyin Zheng, qui est une excellente joueuse, là, d'ailleurs, 21 ans, c'est un bel espoir sur le monde du tennis, cette fille-là. Mais Béatrice Haddad-Maia qui a remporté ce tournoi-là pour ceux que ça intéresse.
Qui a gagné le double aussi, si je me mets à prendre.
Possible.
Simple et double. Oui.
Et c'était un tournoi pour ceux qui ne s'étaient pas qualifiés pour les finales de la WTA. Là, une espèce de tournoi de consolation dont moi, je me pose vraiment la pertinence de ce tournoi-là. Quoique, si c'était nos joueurs canadiens qui étaient là, on serait peut-être bien contents qu'ils disputent ce tournoi-là. Mais d'un point de vue tennis plus macro, là, je me pose vraiment des questions. D'ailleurs, on va continuer de s'en poser des questions après la pause parce qu'on va aller faire un tour du côté de Cancun avant de revenir vers Paris. Tout ça, on va en parler avec Mylène au retour de la pause.
Les cartes cadeaux de l'Hôtel Montville sont toujours une bonne idée. Que ce soit pour offrir à un ami, à de la famille ou pour vous faire plaisir, passez à l'action et achetez dès maintenant votre carte cadeau sur hotelmontville.com. Si vous planifiez une escapade hivernale à Montréal, ne passez pas à côté d'un séjour inoubliable à l'Hôtel Montville. Profitez de son emplacement idéal pour explorer toutes les merveilles que la ville a à vous offrir. Avec notre offre « Restez plus et économisez », prenez le temps et bénéficiez de réductions sur les séjours de 3 nuits minimum. Retrouvez l'offre sur hotelmontville.com.
De retour au Radio Podcast sur la ligne, Alex Régimbal et Hugues Léger en votre compagnie. Hugues, on va faire un petit mini intermède de tennis parce qu'on va aller rejoindre notre collaboratrice Voyage qui est avec nous depuis le début de la saison, Mylène Matteau de Accès Croisière et Voyage. Mylène, merci infiniment de te joindre à nous une fois de plus. Comment te portes-tu?
Hey, ça va bien. J'espère que vous aussi. Je suis contente de vous retrouver. Ça fait quelques semaines déjà que j'étais venue faire mon tour dans votre
Mylène.
Podcast. Bonjour,
Luc. Bienvenue une fois de plus. On a décidé de t'inviter pour une destination voyage assez classique là, à Cancun. Par contre, tu vas nous faire sortir un peu des resorts. Mais qu'est-ce que les joueuses qui sont là-bas pourraient faire pour se divertir pendant qu'au lieu de chialer sur l'organisation du tournoi par la WTA, qu'est-ce qui pourrait leur remettre un sourire dans le visage, là?
Bien, en fait, on est au début de la saison chaude, comme on pourrait dire, là. Fait qu'il devrait avoir de la belle température, premièrement, pour le tournoi. Par la suite, si parmi nos joueuses de tennis, il y a des amateurs de golf, il faut savoir qu'à Riviera-Maya, il y a un terrain reconnu par la PGA. Alors, le PGA Riviera-Maya. Ben oui, t'as de la difficulté ce midi. c'est vraiment un magnifique terrain de golf qui a été bâti à même la nature. Les lacs qui sont sur le terrain sont naturels. On a des cénotés qui sont là aussi. Et c'est Robert Trent Jones II qui est l'architecte de ce terrain qui comprend 2-18 trous et un 9 trous exécutif vraiment pour les professionnels de golf. Fait qu'un magnifique terrain si on a des golfeurs parmi les auditeurs. Là, ça vaut la peine.
Tu es golf, toi, Hugues, un peu?
Si je suis fan de golf...
Si t'es un peu joueur de golf.
Je me suis toujours dit, tant que je pourrais courir, je vais jouer au tennis. Mais j'apprécie le golf à distance pour l'instant. Je vais m'y mettre un petit peu plus tard, j'ai l'impression.
Ah, bon, ben, Colin, on pourra commencer ensemble dans 10 ans. Si t'en as envie, ça va me faire plaisir. On va être à peu près du même niveau, j'ai l'impression, pour une fois, parce qu'au tennis, c'est pas pantoute le cas, ça, je peux vous le dire. Mylène, si Sabalenka, pour elle, le golf, là, c'est pas suffisant, puis elle décide d'aller sur le bord de la plage, je pense qu'il y a des activités pour elle aussi, là.
Bien, en fait, oui, une des découvertes à faire, si on fait de la plongée avec bonbonne. Alors, il y a un musée subaquatique à Isla Mujeres qui est juste un petit peu plus haut de Cancun, à quelques kilomètres. Et vraiment, c'est des œuvres d'art, c'est 500 statues de pierre grandeur nature qui ont été plongées dans la mer et avec tout ça, ça a créé un récif artificiel où on a des centaines de diverses poissons qui sont là. Alors vraiment, un des plus belles endroits pour faire de la plongée sous-marine, vraiment, et avec les pierres grandeur nature, là, c'est complètement irréel. C'est vraiment un petit paradis à découvrir.
L'as-tu déjà essayé, toi, dans tes multiples voyages au Mexique, la plongée?
J'ai fait de la plongée en apnée, mais je ne fais pas de plongée sous-marine avec la bonbonne. Peut-être un jour, j'aurai le courage, mais...
Je voulais pas révéler tes peurs à la radio comme ça, Mylène. Mais j'imagine que ça doit être d'une beauté assez incroyable. Là. Ça, j'en ai absolument aucun doute. Ici, c'est l'Halloween, mais les filles vont être là dans un timing où c'est presque une fête nationale là, au Mexique.
Vraiment, c'est mon timing préféré, moi, personnellement, pour aller au Mexique. On est dans les Dias de la Muerte. Alors, c'est vraiment une offrande qu'on fait, qu'ils font à leur défunt. C'est environ entre le 31 octobre et le 2 novembre, là, tout dépendant des défunts de la famille. Il y a comme des hôtels qui sont construits à même les différentes maisons. Et on va retrouver les photos des défunts, des bougies, de la nourriture, les fameux crânes qu'on retrouve beaucoup, beaucoup au Mexique, les calaveras, qui sont en fait justement les symboles de ces journées-là. Fait qu'on va en retrouver en chocolat, en sucre, vraiment. Et les gens vont faire des processions dans leur cimetière. Ils vont remettre des pétales de fleurs, des bougies, vraiment. Alors, c'est pas l'Halloween. Nous, bon, on fête l'Halloween. Prier leurs défunts. Ça remonte au temps des indigènes et tout, là, qui avaient cette façon de faire-là. Alors, les villes vont être colorées, les fameuses banderoles de papier. Je pense au film Coco créé par Disney il y a quelques années, qui est justement à propos de ces journées-là, très, très colorées, plein de pétales. C'est vraiment ça qu'on vit quand on est au Mexique dans ces dates-là. Je les envie un petit peu, je dois vous avouer, là, je l'ai vécu une fois, puis vraiment, c'est des belles journées à être au Mexique.
Ah, intéressant. Et rapidement, tu voulais nous parler, peut-être, si les filles qui sont là-bas là, ont perdu, leur tournoi est terminé, ils veulent profiter de la vie nocturne à Cancun, tu as des petites recommandations?
Bien, en fait, on le sait, là, Cancun va être réputé pour son divertissement soirée, les casinos, les discothèques et tout. La plupart des hôtels, tout inclus, n'ont pas de discothèque à même leur hôtel, ce qu'on voit dans d'autres destinations, puisqu'on sait que les gens vont sortir directement dans la ville. Il y a l'autobus de ville aussi qui est là, qui est pour comme 2 US, là. Fait que le transport est super, super facile. Fait que bien sûr, Cancun reste une ville de divertissement nocturne très appréciée.
Bien, merci beaucoup, Mylène Matteau, de Accès Croisière et Voyage. Là, ça me fait un grand plaisir que tu viennes nous jaser une fois de plus. Dis-moi, comment est-ce qu'on peut te rejoindre si on veut faire appel à tes services pour réserver une croisière, réserver un voyage et aller rejoindre peut-être les joueuses à Cancun?
Tout à fait. Alors, deux façons les plus simples avec les réseaux sociaux sur Facebook. Vous pouvez nous trouver sur Accès Croisière et Voyage et le site web www.acev.ca.
Mylène, en ce jour de première neige, c'était une chronique parfaite pour nous mettre un peu de baume sur notre cœur de Canadien.
Tout à fait, tout à fait. C'était magnifique ce matin, mais ça nous a tous pris un peu par surprise.
C'est ça que j'allais dire, Hugues, d'après moi, il m'écrivait en privé, d'après moi, tu vas recevoir un appel de Hugues pour qu'il parte en voyage, là, s'éloigner de la première neige et tirer sa saison de tennis extérieur, peut-être. Là. Mylène, merci infiniment. Puis, il reste quelques destinations là, d'ici la fin de la saison, on se reparlera peut-être une ou deux fois là, d'ici la fin de la saison. Merci infiniment, Mylène Matteau, de Accès Croisières et Voyages. On va rester à Cancun, Hugues, si tu le veux bien, parce que, bon, on a fait le détour voyage, c'est dans le cadre de notre partenariat avec Mylène Matteau et sa compagnie, mais il y a quand même du tennis qui se joue là. Je sais pas, est-ce que tu préfères commencer avec la signification du tournoi ou est-ce que tu veux commencer à parler du tennis? Je te laisse choisir.
Oui, c'est important de mentionner que c'est les finales de la WTA, donc les 8 meilleures joueuses sont invitées à ce tournoi-là et les 8 meilleures au classement y sont bien, il n'y a pas eu de remplacement. On a aussi une joueuse canadienne, Gabriela Dabrowski, avec Erin Routcliffe en double, qui est une des joueuses favorites du tournoi. Ils ont d'ailleurs remporté leur premier match contre Pegula et Goff, on en parlera un petit peu plus tard. Dommage que ça arrive en même temps qu'un Masters 1000 du côté masculin qui va prendre beaucoup de place avec le retour de Djokovic, qu'on n'a pas vu depuis l'US Open et la Coupe Davis il y a déjà, mon Dieu, 2 mois. Alcaraz qui est là, les 10 meilleurs au monde sont là du côté masculin. Difficile pour la WTA de prendre la lumière, je dirais, cette semaine. Et ajoute à ça un peu de controverse sur le fait que le site n'était pas encore prêt quand les joueurs sont arrivés jeudi pour les séances photo et pour l'entraînement, ce qui fait que ça commence un peu, difficilement là, les finales de la WTA cette année, peut-être pas pour les bonnes raisons.
Oui, bien, Sabalenka, justement, on faisait des blagues là, pendant la chronique de Mylène Matteau, mais ouais. Il reste que les joueuses n'ont pas pu jouer. Je pense que c'était une journée avant le tournoi. Là, ils ont pu fouler les terrains. Ouais. Puis elle disait que c'était complètement inacceptable. Puis elle a aussi rappelé que bon, elle n'en voulait pas aux organisateurs du tournoi local, mais qu'elle en voulait à la WTA. Ouais,
c'est ça.
C'est voilà. Sûr que c'est un tournoi qui a été, ce tournoi-là aurait dû se disputer en Asie là, depuis pour longtemps. Il a été tassé l'année passée. Il a été joué également à Fort Worth au Texas.
Exact.
Est-ce que je me souviens bien, s'il y a 2 ans, je pense qu'on l'avait joué à Cancun également?
C'était Monterrey il y a 2 ans.
Ah, c'était Monterrey. OK, c'est ça. On l'avait joué au Mexique, mais on avait fait comme un travail pour pouvoir tenir le tournoi à la dernière minute comme ça. Je pense que le résultat avait été bon. Là, c'est ça. Là. À Cancun, on semble avoir des problèmes avec les terrains. Les joueurs aussi en ont contre la sécurité. Il y a des joueurs qui se sont dit « on ne se sent pas en sécurité sur le site ». Et là, ça, c'est un grave enjeu. Là,
c'est ce que Sabalenka a dit. Hein. Effectivement, elle a dit donc c'est un manque de respect de la part de la WTA. Et tu l'as bien précisé, on ne parle pas des organisateurs, mais c'est un tournoi sous la gouvernance de la WTA. Un tournoi très, très prestigieux quand même. C'est les finales la saison avec les meilleures joueuses. Je ne me sens pas à l'aise sur le terrain, je ne me sens pas en sécurité. Problème avec le rebond, avec la constance du rebond des balles. C'est des gros problèmes quand même là, qui font pas très bien paraître la WTA qui a été bousculé plusieurs fois cette année. On se souvient des sorties de Rybakina, il y en a eu plusieurs, dont une à Montréal.
Montréal, ça fait jaser. Ça fait jaser Cincinnati, le tournoi d'après également.
Exactement. Donc, disons qu'il y a une pression là, sur la WTA en ce moment là, au niveau de la gouvernance. Il y a des rumeurs et des preuves aussi de bilans financiers compliqués pour la WTA en ce moment, des enjeux importants là, de rentabilité ou de profitabilité qui n'est pas au rendez-vous en ce moment. Dans un contexte où on augmente les bourses, où on veut liquider des bourses qu'on souhaite tous, mais il faut que la WTA mette de l'ordre dans sa maison et qu'on sente que les joueuses ont confiance à leur institut de gouvernance pour pouvoir bien avancer. Et quand la première joueuse mondiale, Sabalenka, fait des commentaires comme ceux-là, ça devait trembler un peu dans les bureaux quand même ce week-end à la WTA.
Ben, surtout que connaissant les athlètes, qui sont des gens de façon... le terme en anglais, c'est « accountable », qui prennent leur responsabilité au sérieux. Oui. C'est des gens souvent d'action qui ont dit « bon, j'ai quelque chose à faire, je le fais et je vais m'arranger pour bien le faire ». J'ai l'impression que si elles sortent publiquement, c'est qu'ils ont déjà passé beaucoup de messages en coulisses. Oui. Parce que c'est pas dans la nature des athlètes professionnels, surtout quand ils savent à quel point, bon, à un moment donné, à quel point ça peut être tordu quand ça sort publiquement ou que leur message peut être difficile à contrôler. Alors moi, j'ai l'impression que ça fait déjà un bon petit bout que les joueurs ont levé des drapeaux sous le tapis. Et là, on s'est dit, c'est assez, on va en parler publiquement pour que les choses bougent de façon différente. Moi, l'autre question que je me pose, et t'en as effleuré un peu tantôt la question, mais c'est son positionnement dans l'année. Tu sais, toute l'année, les hommes et les femmes se suivent. Puis je te dis pas que ça doit absolument être ça, mais il reste que là, il reste un tournoi de niveau 1000 du côté des hommes. On est en même temps dans les finales de la WTA. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les deux finales en même temps? Tant qu'à jouer dans un 1000, anyway, on va être dans le même mood, deux tournois qui se ressemblent, comme quand c'est l'Omnium Banque Nationale, comme quand c'est l'US Open. Je ne pense pas qu'on a une misère à parler plus des hommes, des femmes, parce que les hommes sont au US Open. Même, je pense que ça générera plus d'intérêt, parce que de part et d'autre, ben, c'est le tournoi final de la WTA et de l'ATP, qui, moi, est un tournoi qui me plaît, par ailleurs, dans sa formule, parce qu'il est différent. Écoute, je ne sais pas, toi, pourquoi on le fait un mois presque plus tôt que celui des finales de l'ATP?
Ben, ce qu'on peut constater, en tout cas, depuis 3 ans, puis tu avais raison d'en parler un peu plus tôt, cette approche-là d'aller vers des tournois côté Amérique ou Mexique, là, donc depuis 3 ans, ça vient de la fin de l'entente avec la Chine. Donc, les finales de la WTA devaient être à la fin de la tournée asiatique. C'était ça qui était l'espace calendrier qui était prévu, avec des grosses sommes à la clé, des bourses importantes. Fait que la WTA a dû bricoler une solution de rechange, et c'est ce qu'on voit depuis 3 ans, et ça paraît, parce qu'à chaque fois, il y a des enjeux. Cette année, évidemment, c'est la préparation du site, du fameux Estadio Paradiso, hein, le mal nommé, je vais dire, cette année, parce qu'apparemment, c'est pas le paradis là-bas en ce moment, mais on se souviendra, à Fort Worth, les assistances étaient familique l'an passé. C'était presque vide au niveau des estrades. Ils ont eu des enjeux aussi l'année précédente à Monterey. Donc, je pense que c'est très compliqué en ce moment, la formule et le timing sur tout ce tournoi-là. Et je suis assez d'accord avec toi de faire un gros événement avec les hommes et les femmes où tous les fans de tennis convergent vers les finales de l'année, autant côté féminin que du côté masculin, ça serait une bonne idée. Trouvons une fenêtre où on va aligner les deux tournois et je pense qu'on tirerait le maximum parce qu'en ce moment, visiblement, cette formule-là, elle est plus compliquée qu'autre chose pour la WTA et c'est pas payant parce qu'année après année, depuis 3 ans, il en ressort des critiques assez négatives.
Enfin, moi, je vais quand même le suivre avec attention, ben, puis toi aussi, j'en suis
convaincu. Ah, moi aussi, je suis intéressé par les matchs, hein, don't get me wrong, je suis intéressé par les matchs, c'est certain.
Mais j'ai hâte de voir. Bon, fait que là, on a fait le tour de tout ce qui entoure le tournoi, finalement, incluant les attractions touristiques, les controverses qu'il y a eu depuis le début de... depuis cette semaine, finalement. Mais parlons de ce qui se passe au niveau tennis. Dans le premier groupe, tu as un groupe, à mon avis, qui est un peu moins fort que le deuxième groupe, mais quand même, il est très fort. Sabalenka, Pegula, Rybakina, Sakkari. Ça, c'est le premier groupe. Il y a déjà des matchs joués dans ce groupe-là. Sabalenka et Pegula ont gagné leur premier match, respectivement. Dans l'autre groupe, c'est Swiatek, Kokogov, Ongjabeur, Vondrousova. Je ne sais pas, est-ce que tu trouves que le groupe de Swiatek est plus fort que l'autre groupe? Tu as quand même le numéro 1 mondial, Rybakina, là, qui a gagné des grands chelems, Pegula, qui a eu connu toute une saison. Mais j'ai l'impression qu'avec Swiatek, championne de grand chelem, Kokogov, championne de grand chelem, Vondrousova, championne de grand chelem, et Jabeur, finaliste de grand chelem, ce groupe-là est un peu plus fort.
Oui, c'est un groupe qui est mieux équilibré. calibré, selon moi. Évidemment, c'est 8 excellentes joueuses, mais écoute, Sabalenka qui bat Sakkari d'entrée de jeu, 6-0, 6-0, double bagel, c'est pas un très bon début pour le tournoi aussi. Donc, effectivement, ce groupe-là là, semble un peu débalancé par rapport à l'autre, et je m'attends à des matchs plus intéressants là, dans le groupe de Swiatek et Coco Gauff.
Ouais, c'est sûr que Sakkari, bon, c'est une boîte à surprises cette année, là. Autant elle a connu d'excellents moments, autant, bon, on finit toujours par se dire qu'elle joue un peu en deçà de ce qu'elle peut faire. Évidemment, un 6-0, c'est sûr, là, contre Sabalenka, même si c'est la numéro 1 mondiale, là, c'est un peu gênant au niveau du score quand tu es au final de la WTA. Et puis Pegula, qui bat Rybakina, c'est quand même une certaine surprise, mais je ne sais pas jusqu'à quel point ça en est une, parce que Pegula a connu vraiment une excellente saison. Elle est en double aussi, Pegula, d'ailleurs, avec Coco Gauff. Et d'ailleurs, elles ont perdu leur premier match d'entrée qui s'est disputé contre Dabrowski et Erin Rutliff. Eux aussi, dans leur groupe de double, ils sont dans un groupe qui est très, très fort, là, le groupe des deux Canadiennes. Je vais le dire comme ça ce sont deux Canadiennes. Et ils ont Coco Gauff et Pegula, j'en ai parlé, mais elles les ont battues. Et tu verras pourquoi c'est une victoire particulièrement importante. Parce qu'elles ont dans leur groupe également Krejcikova et Siniakova, même si elles sont quatrième tête de série. C'est, à mon sens, à moi, peut-être la meilleure paire de double au monde. Et oui, t'as Zygmunt et Zvonareva, là, peut-être que ça sonne pas de cloche pour la jeune génération, là, mais c'est quand même une fille qui a été numéro 2 mondiale il y a vraiment pas si longtemps que ça, là, au milieu des années 2000. Alors, c'est une fille qui a beaucoup, beaucoup d'armes. Le deuxième groupe est un peu moins fort, à mon avis. T'as le groupe des Japonaises Ayoma et Sibihara, Krafchik et Schurz, Hunter et Mertens. Ça, c'est quand même un groupe intéressant, là, Hunter et Mertens. Elle est très bonne, Mertens, en double. Et Perez et Michaela Martinez là, dans l'autre groupe. Alors, hâte de voir qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là, mais c'est une victoire importante, cette première victoire-là, Dabrowski et Rutliff, parce que leur groupe est tellement fort et chaque victoire est importante.
Alex, je vais être content de mettre mon drapeau canadien dans cette intervention-là, mais effectivement, Dabrowski et Rutliff sont septième favorites. Ouais. Elles ont battu en 2-7 Gauff et Pegula, les premières favorites. C'est quand même une victoire importante, et oublions pas que Dabrowski et Rutliff ont gagné l'US Open. Moi, je pense qu'elles peuvent nous surprendre dans ces finales de la WTA. Je vais suivre avec beaucoup d'intérêt ce que Dabrowski et Rutliff vont faire.
En tout cas, peut-être qu'on va avoir le goût de rapatrier Erin Rutliff sous le drapeau canadien pour la Billie Jean King Cup l'année prochaine. Ce ne sera pas le cas cette année, mais pourquoi pas, Colin, si cette paire-là s'affiche comme une des meilleures paires de double au monde, et c'est déjà le cas, en fait. Là.
Ah oui.
Écoute, ce serait pas gênant d'avoir ça sous le drapeau canadien. Bon, je te demande rapidement une petite prédiction, là, à quoi tu t'attends du côté du simple pour les finales de la WTA. Sabalenka, elle a un groupe, on en a parlé peut-être un peu moins fort sans qu'il soit facile. Est-ce que le groupe Swiatek, Gauff, Jabeur, Vondrousova va être plus éreintant et ce sera plus compliqué pour la joueuse qui va sortir de ce groupe-là?
Probablement. Les matchs vont être plus accrochés. Sabalenka a l'air en mission pour finir très, très fort. On l'a vu dans son premier match contre Sakkari. Je nous souhaite une finale Sabalenka-Swiatek pour vraiment, vraiment asseoir qui est la chef en ce moment du côté féminin. Et c'est ce que je prévois aussi comme finale pour ces finales de la WTA cette semaine.
C'est sûr que c'est difficile de prévoir la finale parce que, le classement va affecter leur positionnement en demi-finale. Là. Alors, tous les scénarios sont encore relativement possibles. Moi, j'aimerais ça une petite finale Coco Gauff-Sabalenka. Pourquoi pas?
Ça serait assez agréable, ça aussi.
Petite revanche, là, peut-être, ou une concrétisation pour eux. Ouais. Bon, de Cancun, allons faire un dernier tour du côté de Paris, puisque c'est les derniers Masters 1000 de la saison. Félix y sera. Et on a un tableau digne de ce nom, là, mon cher Hugues, avec le retour de Novak Djokovic.
Ouais, premier tournoi de Djokovic, j'en parlais un petit peu plus tôt, depuis les US Open et la Coupe Davis. Les 10 premiers joueurs mondiaux y sont. Il y a 3 places à prendre pour les finales de l'ATP encore. encore, qui ne sont pas confirmés. C'est tout un tableau qu'on a à Paris. Écoute, quand on met un match de premier tour, Dimitrov-Musetti sur le terrain numéro 2, ça donne une bonne idée de ce qui se passe là en ce moment comme qualité du tableau. C'est un tableau de premier plan. On va avoir une très belle semaine à Paris. Je voyais ce matin les foules. Le stade était rempli à Bercy, donc c'est l'Arena Accor. C'est un tournoi à l'intérieur, hein, dans le 12e arrondissement de Paris. Des foules exceptionnelles pour ce tournoi chaque année. Belle semaine de tennis qui commence là, avec les meilleurs mondiaux. Puis bien de voir jusqu'où Félix va se rendre cette semaine.
Déjà quelques surprises quand même dans ce tournoi-là. Bon, on regardait les tableaux au premier tour. Il y avait beaucoup de matchs popcorn, comme on dit. Et dans ces matchs-là, bien, il y avait Alex de Minaur contre Andy Murray. Andy Murray a chauffé de Minaur, là, comme c'est son habitude. Là, Andy Murray ne donne jamais de match facile. Il joue à peu près tous les matchs les plus longs. Et parfois, plus souvent qu'autrement, dans les dernières années, c'est avoué vaincu, mais à grand coup de raquette, et il a été difficile. Bublik a battu Frances Tiafoe. C'est peut-être une petite surprise, peut-être un petit ralentissement pour Tiafoe dans les dernières semaines, Hugues?
Oui, c'est pas sa meilleure saison, Tiafoe. C'est plus compliqué depuis quelques semaines. Et Murray, il faut le dire, menait 5-2 dans le troisième. Match de près de 3 heures. Il a perdu des balles de match. Il a explosé ses raquettes à la fin du match. Très, très déçu de cette défaite-là, encore une fois, contre Alex de Minaur.
Non, exact. C'est pas nécessairement évident, mais écoute, à l'âge qu'il est rendu avec une hanche en métal. Là. Et je te parlais d'un ralentissement pour Tiafoe. Ben, c'est une défaite à son premier match au premier tour à Paris. Ça a été également le cas à Tokyo. Ça a été également le cas à Shanghai. Et en Coupe Davis, là, il avait battu Hubert Katch, mais c'est plus compliqué là, ces temps-ci. Ouais. Là, il avait fait aussi 2 défaites en Coupe Davis. Alors, c'est beaucoup plus compliqué pour Frances Tiafoe. Peut-être que nos attentes sont plus élevées. L'autre surprise, je ne sais pas si c'est une surprise, mais Ben Shelton s'est incliné contre Davidovich Fokina. Est-ce que toi, tu vois ça comme une surprise ou est-ce que Davidovich Fokina est un adversaire digne de ce nom?
Ouais, c'est un giant killer, Davidovich Fokina. Il a déjà battu Djokovic. C'est un gars très compliqué à jouer, très bon sur des surfaces de vitesse moyenne ou lente. Évidemment, c'est un peu une surprise parce que Shelton est le joueur en forme là, depuis le US Open. Donc, on aurait pensé que Shelton aurait passé, mais c'est pas si surprenant que ça que Davidovich Fokina en vienne à bout au premier tour à Paris. Mais encore une fois, ça montre la qualité du tableau de ce Masters 1000.
On fait un saut dans le temps, puis on se transporte en 2013 ou 2000, mettons un peu plus loin que ça, là, 2015, mettons, Stan Wawrinka, Dominic Thiem, ça t'allume.
Oui.
Mais cette année, est-ce que ça t'allume encore?
Tournoi des old-timers, écoute, deux des plus beaux revers à une main du circuit, deux anciens joueurs du top 4, top 3. Oui, c'est un match que je vais regarder avec beaucoup d'intérêt.
Intéressant, j'ai hâte de voir ce qui va se passer de ce côté-là. Dimitrov Musetti, je te parlais qu'il y avait beaucoup de matchs de premier tour. Écoute, dans les 1000, c'est plus rare qu'on ait beaucoup de matchs de premier tour qui sont canons. C'est vrai. Évidemment, le classement fait en sorte que les joueurs, les meilleurs joueurs ont souvent des bails et c'est aussi, il y a plus de. On accepte plus de joueurs finalement. Fait que il y a des joueurs moins bien classés souvent que dans des plus petits tournois.
Il y a des qualifications aussi, oui.
Oui, exact, exact. Alors, Dimitrov Musetti, c'est un excellent match. Félix contre Lennard Struff. Est-ce que Félix pourra passer le premier tour? Si oui, Hugues, il aura un méchant défi au 2e et 3e tour, possiblement. Je veux savoir ce que tu penses. Est-ce que Félix, qui vient tout juste de remporter un tournoi, continuera sur sa lancée?
Oui, je pense, on l'a déjà dit, Félix est un joueur de séquence et finalement, après plus de 200 jours, il rentre dans une séquence victorieuse. Moi, j'ai bon espoir que Félix va faire un bon parcours parce que là, il a retrouvé une grosse dose de confiance la semaine passée avec sa performance à Bâle. S'il passe Jan Lennard-Struff, il jouera Stefanos Tsitsipas, qui a été battu par Medvedev la semaine dernière à Vienne. J'ai bien hâte de voir ce match de 2e tour-là, mais Félix va l'aborder sans complexe, ce qui n'aurait pas été le cas s'il y avait eu une mauvaise performance, une mauvaise performance à Bâle. Donc, j'ai bien hâte de voir ce 2e tour là, contre Tsitsipas, si jamais il passe Jan Lennard-Struff. Et je pense qu'il va gagner son match de premier tour.
Écoute, moi aussi, je pense qu'il va passer son match de premier tour, mais 2e tour, 3e tour, quart de finale, demi-finale, finale, là, je veux dire, c'est tous
un Masters 1000.
Ouais. Tsitsipas, il a une fiche de 3-5 contre lui. C'est un peu un genre de bête noire là, pour Félix Auger-Aliassime, Stefanos Tsitsipas. S'il fallait qu'il passe Tsitsipas, il affronterait possiblement Alexander Zverev, qui va bien ces temps-ci quand même, Zverev. La bonne nouvelle pour lui, c'est que s'il accédait les quarts de finale, Là, tu vas voir qu'il y a un peu d'ironie. Il affronterait Carlos Alcaraz.
Exact.
Mais là, il a une fiche gagnante contre Carlos
oui,
Alcaraz.
Oui, mais attention, regarde dans quel ordre. C'était au début qu'il gagnait. Maintenant, il gagne un petit peu moins contre lui.
Ouais, il est quand même. Ben, il l'a quand même battu il y a à peu près un an. Là, quand même, c'est pas. Mais bon, je dis ça avec un sourire en coin, là, évidemment. Il a un tableau vraiment, vraiment, vraiment compliqué, là, Félix. Je pense que s'il passe le premier tour et qu'il termine ça au deuxième tour, on pourra dire mission accomplie. On lui souhaitera bonnes vacances jusqu'à la Coupe Davis, qu'il aille se reposer avant la Coupe Davis, puis après ça, ça sera terminé, mais sa saison ATP sera terminée. Enfin, on lui souhaite un bon tournoi du côté de...
Tu peux nous surprendre. Moi, je te dis, je suis dans un mood positif pour Félix à ce moment.
Qui vois-tu champion? Penses-tu que un Novak reposé, bien en jambes, va terminer avec le trophée une fois de plus dans les mains?
Sinner est vraiment en forme en ce moment. Et je vois le tableau de Sinner, là, je pense qu'il peut se rendre en demi-finale assez rondement. J'ai de la difficulté pour Djokovic. Et c'est, évidemment, quand il arrive pour un tournoi, il est prêt. Il continue d'écrire le livre des records. C'est le joueur qui a la meilleure fiche au Masters de Paris-Bercy, Djokovic. Donc, il faut le garder dans les gagnants. Mais moi, je mise là en ce moment sur Djokovic ou Sinner comme mes favoris.
Ah ben, si Sinner veut remporter ce tournoi-là, il devra battre Djokovic en demi-finale, possiblement.
Exact.
Alors, c'est intéressant. Ça se peut très bien, là. Sinner, la façon dont il a joué, disons, depuis un an ou presque, là, ça se pourrait très bien. Écoute, Hugues, j'ai hâte de voir. Moi, je suis bien content parce que Félix, au moins, nous redonne un peu d'espoir pour ce tournoi-là. Et on va terminer l'année avec le sourire du côté de Félix Auger-Aliassime. Je vous rappelle qu'il a remporté un premier titre cette année. Ça se passait à Bâle cette semaine ou la semaine passée. On va faire une courte pause. Et retour, on va aller jaser un petit peu avec Isabelle Etier qui a une entrevue à nous présenter.
Les cartes cadeaux de l'Hôtel Montville sont toujours une bonne idée. Que ce soit pour offrir à un ami, à de la famille ou pour vous faire plaisir, passez à l'action et achetez dès maintenant votre carte cadeau sur hotelmontville.com. Si vous planifiez une escapade hivernale à Montréal, ne passez pas à côté d'un séjour inoubliable à l'Hôtel Montville. Profitez de son emplacement idéal pour explorer toutes les merveilles que la ville a à vous offrir. Avec notre offre « Restez plus et économisez », prenez le temps et bénéficiez de réductions sur les séjours de 3 nuits minimum. Retrouvez l'offre sur hotelmontville.com.
De retour à Sur la ligne, le radio-podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Hugues, on n'en a pas parlé encore, mais peut-être des nouvelles qu'on va annoncer prochainement. On va vous laisser en plan comme ça, mais il y a peut-être des projets qui avancent là, du côté de Sur la ligne. Hugues et moi, on travaille très fort dans les coulisses, mais je vais dire juste ça pour l'instant. Isabelle Etier, comment vas-tu? Comment te portes-tu? Tu as regardé Félix ce week-end?
Certainement, j'ai regardé du tennis, j'ai joué au tennis finalement, très heureuse de sa victoire. Ça coordonne aussi avec ma première victoire, moi aussi, en compétition. Tu sais, vous savez que je suis en compétition au tennis en double, bon, amateur, bien entendu. Fait que je pense que c'est une bonne saison pour nous, les Québécois, dans la neige.
Une bonne fin de saison. Ben, félicitations pour ta première victoire en compétition, pas gênant. Et Isabelle, ben, tu as une entrevue à nous présenter parce que tu as rencontré Elisabeth Giguère dans le cadre de notre collaboration. Ben, tu enregistres des entrevues dans le cadre de ton podcast Femmes d'Hockey.
En fait, oui, tu sais, tantôt, on entendait Mylène nous parler, est-ce que les joueuses de tennis jouent aussi au golf? Elle pourrait aller jouer là, à Cancun, excusez, je mélange mes endroits. Je pense un ou l'autre, on irait présentement au soleil. Ouais. Mais bref, je me suis posé la question, est-ce que les joueuses de hockey sont intéressées par le tennis? J'en ai croisé quelques-unes cet été à l'Omnium Banque Nationale. Et effectivement, je me suis entretenue avec Elisabeth Giguère. J'avais envie de savoir d'où venait son intérêt pour le tennis parce que je l'ai croisée cet été. Elle a joué d'ailleurs au deck hockey avec certaines de nos joueuses. Puis, faire quelques similitudes, fait que je vous invite à écouter ça. Je suis en compagnie d'Elisabeth Giguère, joueuse de hockey professionnelle qui a été repêchée, la première Québécoise à entendre son nom lors du repêchage du 18 septembre dernier pour la Ligue professionnelle de hockey féminin. Elisabeth, bonjour.
Bonjour.
Elisabeth, bon, aujourd'hui, on ne parlera pas d'hockey. On veut parler de tennis avec toi. On s'est croisés. En fait, tu étais à l'Omnium Banque Nationale. Tu es venue jouer au deck hockey avec des joueuses professionnelles.
Oui, c'était vraiment le fun. On a pu jouer avec une couple de joueuses professionnelles. Il y avait beaucoup de joueurs de hockey professionnels aussi. C'était le fun de mixer les deux ensemble.
D'avoir une partie amicale. Bon, il y avait Ostapenko, il y avait Gabriel Dabrowski, il y avait Azarenka. Bref, toutes des bonnes joueuses, des joueuses professionnelles. Quel est, toi, ton intérêt pour le tennis? Est-ce que ça fait longtemps que tu suis le tennis?
Non, justement, j'ai écouté le nouveau reportage, le Breakpoint sur Netflix, quand ça l'a sorti, avant le bon, à Montréal, c'est
L'Omnium?
quoi, l'Omnium de Montréal. Puis ça m'a intéressé là, tout de suite, moi, quand tu vois tout ce qu'ils font pour être les meilleurs de leur sport, ça m'avait tellement accroché que j'ai commencé à l'écouter après, puis tu sais, j'avais mes préférés dans le reportage. Fait que là, tu regardes leur game. Fait que ça c'était quand même le fun.
Justement, qui sont tes préférés que tu découvres à travers ce reportage-là, pas nécessairement pour ce
Ouais.
qu'ils font sur le terrain, mais qu'on nous a présenté dans Breakpoint.
Ouais. Ma préférée, c'était Ons Jabeur.
Ah ouais, hein?
Je sais pas pourquoi, elle m'a accroché, puis Sabalenka aussi. Parce que tu sais, dans le reportage, elle gagne rien, puis elle dit je vais gagner l'année prochaine, puis là, l'avoir dominée cette année, tu sais, comment
Ouais.
qu'elle avait ça, puis tout, c'est le fun. Puis ouais, ces deux-là, je te dirais que c'est mes préférés.
Puis, si je te demandais de faire un parallèle entre justement le hockey et le tennis, bon, maintenant, le hockey devient professionnel. Comme on se le dit, il y avait tout le temps eu des équipes, il y avait quand même au niveau du hockey, mais là, il y a une ligue avec les meilleurs au monde, il y a 6 équipes. Tu as été repêché dans une de ces équipes-là à New York. T'sais, bon, tu as fait partie du camp d'entraînement pour Hockey Canada, tu as gagné plein de prix universitaires du côté NCAA, là, que. Donc, pour que les gens comprennent, tu sais, s'ils ne suivent pas nécessairement le hockey féminin, tu fais partie de la NEC ultra du hockey. Là, c'est comme si on disait, tu fais partie, tu es dans le top 100, tu es même dans le top plus que 100, tu es dans le top 50 là, au hockey féminin quand tu regardes. T'sais.
Ouais, mais c'est sûr que quand tu compares le hockey puis le tennis, mettons professionnel, c'est sûr que eux c'est un sport individuel, mais ils ont
Ouais.
tellement une grosse équipe alentour de eux là, tu voyais la première au monde, j'oublie son nom en ce moment, qui était la première au monde, pas Sabalenka, c'est
Iga Swiatek
Iga, ouais,
est
tu sais,
revenue
tout
non,
le
non,
monde
elle n'est pas encore.
non, pas encore.
Ah, c'est
Le monde qu'elle a alentour de elle, tu sais, son préparateur physique, mental, puis tout ça, c'est sûr que nous, c'est la même chose. Tu sais, on a plein de monde alentour, mais c'est le travail qu'il faut pour être professionnel. Là, tu sais, tu le vois, là, comment ils travaillent fort, comment ils s'entraînent, comment mentalement, tu sais, ils veulent tout le temps devenir better, tu sais, ils veulent tout le temps être mieux que ce qui était la journée d'avant, puis c'est la même chose pour nous. Fait que je te dirais que juste être une professionnelle, c'est le travail, là. Le monde voit pas tout le travail que ça va en arrière. Puis je te dirais que c'est le plus gros comparable entre les deux, là.
Puis est-ce qu'on peut comparer aussi le fait que il y a la légende, l'icône de l'équité, Billie Jean King, qui était bon, justement derrière, qui a permis à créer la WTA, qui a eu un impact majeur pour avoir des bourses égales au niveau des grands chelems. Là, on le voit au niveau du tennis, ça s'en vient de la WTA, les niveaux 1000 vont devenir équitables dans quelques années, puis après ça sera les 500, c'est pas encore là. Elle est derrière, elle a investi pour créer cette ligue professionnelle pour vous. T'as-tu la chance de la rencontrer, toi?
Non, je l'ai juste vu de loin. J'ai pas eu la chance de la rencontrer en personne encore, mais c'est sûr que c'est incroyable là, ce qu'elle a fait pour le tennis féminin. Puis là, pour le hockey féminin, juste commencer à investir en nous puis croire en nous, c'est quelque chose qu'on rêvait depuis tellement longtemps. Puis le fait qu'elle croit en ça puis qu'elle nous supporte, c'est sûr que c'est incroyable. Puis comme je dis, là, ce qu'elle a fait avec le tennis, c'est fou là. Et tu sais, quand c'est quoi son nom? J'oublie tous les noms en ce moment. Qui a gagné à Montréal.
Ah, Pegula.
Ouais, c'est
Jessica
ça.
Pegula.
T'sais, juste, je sais pas, tout le monde qui gagne, puis t'sais, quand tu reçois l'enveloppe, puis c'est comme, OK, moi, je fais la même chose que, comme tu dis, les 1000 qu'un gars, t'sais, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais eu avant. Puis là, on peut rêver à ça pour le tennis, puis un jour, ça va être le hockey. Fait
En fait, on est
qu'on
dans
voit
les
ça.
débuts, là. Ça
C'est
se
sûr, hein,
passe.
oui.
Mais penses-tu que, bon, toi, tu me dis que tu as développé ton intérêt plus marqué pour le tennis grâce à une série comme Breakpoint sur Netflix. Ça, le fait que tu aies accès à leur histoire, à connaître les joueurs au-delà de leur performance, ça t'ouvre justement à t'intéresser à la performance sur le terrain. C'est-tu une piste de réflexion aussi qu'il pourrait avoir du côté du hockey féminin? T'sais? Est-ce qu'on devrait faire une série sur vous, les joueurs, justement, tout le derrière et comment ça se passe pour apprendre à vous connaître?
Mm-hmm, peut-être, c'est sûr que ça a ouvert des portes là, au tennis, puis je sais qu'à cause de Breakpoint, ils ont gagné plusieurs nouveaux fans, tu sais, comme moi, mais je suis pas la seule, et on en parlait au training, puis tout ça, tu sais, il y a beaucoup de monde qui aime le tennis maintenant, puis juste à cause de ça. C'est sûr que ça serait une bonne idée, une excellente idée. Peut-être que tu vas commencer ça.
Ben, écoute, on va commencer à plancher là-dessus. Ce serait une bonne idée. Moi, j'aime ça. OK, j'en vais.
Pourquoi pas?
Élisabeth, merci d'avoir pris le temps de venir nous jaser un peu de tennis. Toi qui es joueuse d'hockey professionnelle, qui va jouer dans la Ligue professionnelle d'hockey féminin qui se rapporte à New York, donc qui commence en janvier prochain. Merci, Élisabeth.
Merci beaucoup.
Si vous le voulez bien, on va faire une courte pause. Et au retour, ben, Abraham Santerre va venir nous parler de ce qui s'est passé avec les autres Canadiens dans sa chronique.
Les cartes cadeaux de l'Hôtel Montville sont toujours une bonne idée. Que ce soit pour offrir à un ami, à de la famille ou pour vous faire plaisir, passez à l'action et achetez dès maintenant votre carte cadeau sur hotelmontville.com. Si vous planifiez une escapade hivernale à Montréal, ne passez pas à côté d'un séjour inoubliable à l'Hôtel Montville. Profitez de son emplacement idéal pour explorer toutes les merveilles que la ville a à vous offrir. Avec notre offre « Restez plus et économisez », prenez le temps.
De retour au Radio Podcast sur la ligne, Abraham Santerre, merci de te joindre à nous. On a eu quand même beaucoup de plaisir à parler de Félix Auger-Aliassime cette semaine qui a remporté son tournoi, mais c'est pas le seul qui a connu beaucoup de succès. Et il y en a une dont on parle presque à chaque semaine et qui continue de nous en mettre plein la vue. Marina Stakušić a encore fait des flamèches cette semaine.
Ben oui, Marina Stakušić, au détriment de ne pas avoir été à Saguenay, elle était à Toronto, puis elle était en forme, là, elle a gagné le tournoi, un troisième tournoi ITF à sa fiche, là, trois tournois en 2023 gagnés. Et ça, c'est quand même un vraiment bon résultat, parce qu'il y avait des bonnes joueuses dans ce tableau-là. Là. Au dernier tour, elle a battu Jana Fett, la joueuse de la Croatie, qui est membre du top 200 au monde. Et cette victoire-là, ça amène Stakušić à son meilleur classement en carrière. Là. Elle devient 257e au classement. Donc, elle ne fait que monter. Puis, c'est pas parti pour s'arrêter. Là.
C'est pas compliqué, elle, là, depuis. Qu'elle nous a impressionnés à Montréal. Ben, elle nous a impressionnés à Granby aussi, mais à Montréal, elle avait fait toute une performance là, contre une fille beaucoup, beaucoup mieux classée qu'elle, là, Alicia Parks. Et puis depuis ce temps-là, ben, on dirait qu'elle ne perd presque jamais. Là. Elle avance systématiquement dans les tournois, puis ça, c'est si elle ne gagne pas le tournoi. Le seul endroit où elle a, bon, si on veut trébucher, là, puis je ne sais pas si on peut appeler ça trébucher, c'est à Saguenay quand elle a perdu contre Mboko.
Elle était. Ah oui, c'est vrai, mon Dieu.
Quand elle a perdu contre Mboko, et ça a été. Mboko, on sait que c'est un des plus bels espoirs du tennis, mais Stakušić aussi, là, je pense qu'on n'a pas le choix de l'avoir comme un des plus bels espoirs du tennis à 18 ans seulement. Là. C'est une fille qui, Colin, de la façon dont elle gagne présentement, là, on va la voir plus tôt que plus tard sur le circuit de la WTA.
Oui, puis on peut mentionner aussi Victoria Mboko a fait une belle performance à Toronto aussi, là, une demi-finale qui elle a été défaite par Jana Fett, justement. Mm-hmm. Mais une autre belle performance de Victoria Mboko qui continue d'avancer, mais à son âge, on n'a pas besoin de stresser encore. Là.
Non, exact. Est-ce qu'il y avait d'autres résultats qui avaient attiré ton attention, mon cher Abraham?
Ben, on peut mentionner pour le fun Kayla Cross qui a fait une finale en double à Toronto avec Liv Hovde, qui est la championne 2022 de Wimbledon Junior. Donc, un beau résultat là. Et l'action, là, il y a aussi Saint-Augustin, un tournoi masculin 25 mai qui a lieu. Peu de résultats à retenir, là. Donc, Dan Martin qui a fait un quart de finale en quart de finale. Sinon, il n'y a pas grand-chose. Et l'action, là, maintenant, se transporte à Edmonton. Il y a un 25 000, tant au niveau des femmes que chez les hommes. Chez les femmes, là, on va surveiller Cadence Brace. Il y aura aussi Kayla Cross et d'autres joueuses aussi qui font partie des qualifications. Là. Il y aura plusieurs Canadiennes. Et vraiment, chez les hommes aussi, là, Liam Draxel, Justin Boulet, qui revient des Jeux panaméricains, et d'autres Canadiens, dont Braden Schnur.
Oui, bien, une chance, j'ai hâte de voir dans quelle qualité il va jouer. Il n'a presque pas joué, lui, dans les dernières années. Un mélange de blessures, toutes sortes de choses, là. Mais c'est un gars qui a très bien fait chez Junior. Déjà fait une finale sur le circuit de l'ATP, une grosse première balle. Hâte de voir qu'est-ce que ça peut donner dans son cas. Abraham, merci infiniment de t'être joint à nous pour ta chronique traditionnelle sur les autres Canadiens. Ceux dont on parle un peu moins, ben, c'est ton rôle de le faire et on l'apprécie énormément.
Oui, bonne semaine.
Bye-bye. Hugues, ça signe la fin de l'épisode pour nous. Beaucoup de tennis à regarder cette semaine du côté de Paris, les finales de la WTA également. Et on espère que Félix Auger-Aliassime pourra continuer sur sa lancée malgré son tableau difficile. Et comme Nicolas Richard est absent parce qu'il était en mission pour la presse cet après-midi, enfin au moment d'enregistrer l'épisode, ben c'est toi qui auras la lourde tâche de terminer l'épisode d'aujourd'hui.
Alors, bon tennis d'hiver, Isabelle. Bon tennis, Alex. Bon tennis, tout le monde.